Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre web radio. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale sur le thème de l'égalité entre les filles et les garçons, réalisée par les Bientôt Partis et Actu Litteri.
Nous sommes Blanca, Yanis, Janelle et Mathéo et nous serons avec vous pour vous présenter les différents sujets de cette émission.
Pour commencer, nous parlerons du droit des femmes et plus précisément du droit de vote et de l'IVG. Avec Joshua, Joachim, Emelia et Gabin.
Ensuite, nous découvrirons de grandes figures féminines d'hier et d'aujourd'hui, présentées par Ethan, Lucie, Flavie et moi. Puis, nous nous intéresserons à ces femmes que l'histoire a parfois oubliées, avec Zia, Louise, Alban et Baptiste.
Nous aborderons aussi l'actualité avec le sujet sur MeToo et l'affaire Weinstein, présentée par Nina, Alexis, Sarah et Joris. Puis, nous parlerons des stéréotypes féminins et masculins avec Lorraine, Alice, Lucie et Lana.
Et pour terminer, deux interviews de professionnels rencontrés par les élèves lors du forum « Dégenre ton orientation » réalisé par Nina et Lorraine.
Tout de suite, nous laissons la parole à Joshua, Joachim, Emelia et Gabin.
Bonne écoute à toutes et tous.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de deux droits importants pour les femmes en France, le droit de vote et le droit à l'IVG. Ces droits peuvent nous sembler normaux aujourd'hui, mais ils ont été obtenus après de longs combats.
Aujourd'hui, les femmes votent comme les hommes, mais cela n'a pas toujours été le cas. En France, les femmes obtiennent le droit de vote en 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale. Elles votent pour la première fois en 1945, juste après la guerre. Pourtant, certaines femmes réclamaient ce droit depuis très longtemps. Par exemple, pendant la Révolution française, Olympe de Gouges défend déjà l'égalité entre les hommes et les femmes.
Plus tard, au XIXe siècle, d'autres militantes continuent le combat. C'est le cas de Hubertine Auclair qui crée en 1876 une association appelée le droit des femmes pour défendre le droit de vote féminin. Elle explique que si les femmes doivent payer des impôts et respecter les lois, elles devraient aussi avoir le droit de voter.
Au début du XXe siècle, une autre militante, Louise Weiss, continue cette lutte. Elle organise des actions et écrit dans la presse pour défendre le droit des femmes à participer à la vie politique. Malgré tous ses efforts, le Parlement refuse longtemps cette idée. Il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale pour que le droit de vote des femmes soit enfin accepté.
Passons maintenant à un autre droit important. Savez-vous ce que signifie IVG ? Cela veut dire interruption volontaire de grossesse. C'est le fait pour une femme de décider d'arrêter une grossesse.
Pendant très longtemps, l'avortement était interdit en France. Les femmes qui avortaient pouvaient être punies par la loi. Beaucoup devaient donc le faire en secret, parfois dans des conditions dangereuses pour leur santé.
Dans les années 1970, de nombreuses femmes commencent à se mobiliser pour changer cette situation. En 1971, un texte célèbre est publié, le Manifeste des 343. Dans ce manifeste, 343 femmes déclarent publiquement avoir avorté pour dénoncer l'interdiction. Quelques années plus tard, la ministre de la Santé, Simone Veil, propose une loi pour autoriser l'avortement.
Après de nombreux débats, la loi est finalement adoptée en 1975. Elle est connue sous le nom de loi Veil. Grâce à cette loi, les femmes peuvent avoir recours à l'IVG légalement et dans de bonnes conditions médicales. Comme nous l'avons vu, les droits des femmes en France ont été obtenus grâce à des années de mobilisation et de courage.
Le droit de vote et le droit à l'IVG montrent que les droits peuvent évoluer avec le temps grâce aux personnes qui s'engagent pour l'égalité.
Merci à vous quatre. Ces droits n'ont pas été obtenus par hasard. Ils sont le résultat de combats menés par de nombreuses femmes courageuses. Nous allons maintenant découvrir quelques grandes figures féminines qui ont contribué à faire évoluer les droits des femmes et qui contribuent encore aujourd'hui grâce à Lucie, Flavie, Mathéo et Ethan.
Pendant longtemps, les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes. Elles ne pouvaient pas voter, ni faire certains métiers, ni parfois décider librement de leur vie.
Mais certaines femmes courageuses ont fait évoluer les choses.
Nous allons vous présenter quatre femmes de différentes époques qui ont chacune, à leur manière, défendu la liberté et l'égalité.
Commençons par Olympe de Gouges. Elle a vécu au moment de la Révolution française à la fin du XVIIIe siècle. À cette époque, on parle beaucoup de liberté et d'égalité, mais surtout pour les hommes. En 1791, elle écrit un texte très important, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Dans ce texte, elle affirme que les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes. C'était une idée très audacieuse pour son époque.
Au XIXe siècle, une autre femme s'est battue pour les libertés, George Sand. C'était une écrivaine très célèbre, mais à cette époque, les femmes écrivaines étaient souvent moins respectées que les hommes. Elle choisit donc un nom masculin pour publier ses livres. George Sand défendait l'indépendance des femmes et refusait certaines règles injustes de la société. Elle voulait montrer que les femmes pouvaient penser, écrire et vivre librement.
Aujourd'hui encore, des artistes continuent à défendre ces valeurs. Par exemple, la chanteuse Barbara Pravi utilise sa musique pour parler de liberté, de respect et de droits des femmes. À travers ses chansons et ses prises de parole, elle rappelle que l'égalité est un combat qui continue.
Enfin, parlons aussi d'une autrice contemporaine, Clémentine Beauvais. C'est une brillante autrice, traductrice et féministe française. Elle vit à Cambridge, au Royaume-Uni depuis 2016 et exerce le métier d'enseignante-chercheuse en sociologie et en philosophie de l'enfance à l'Université de York. Ses premiers livres ont remporté de nombreux prix et ont été publiés par les éditions Talents Hauts, spécialisées dans le décryptage des stéréotypes. Certains sont même adaptés au théâtre. Clémentine Beauvais est aussi l'autrice de séries en anglais et traductrice de Sarah Crossan, autrice de Inséparable, ou encore d'Elisabeth Acevedo, autrice de Signée Poetics. Elle est très présente sur les réseaux sociaux et entretient des rapports directs avec ses lecteurs et lectrices. Voici quelques-unes de ses œuvres qui traitent de la thématique de l'égalité homme-femme. Les Petites Reines, 2015, roman jeunesse engagé abordant le sexisme dont sont victimes trois adolescentes lors d'un concours. La Revanche des Princesses, 2019, recueil de nouvelles réécrivant des contes de fées sous un angle féministe dénonçant les rôles genrés traditionnels. Et Rouge, 2025, roman jeunesse sur l'adolescence, le regard social et les normes imposées aux filles.
Effectivement, certaines femmes ont réussi à marquer l'histoire et à être reconnues pour leurs actions. Mais beaucoup d'autres ont été oubliées, même si leurs découvertes ou leurs idées ont été très importantes. C'est ce dont nous allons parler dans la prochaine chronique avec Alban, Zia, Louise et Baptiste.
Dans l'histoire des sciences, on parle souvent davantage des hommes que des femmes. Quand on pense à des scientifiques célèbres, les noms nous viennent facilement à l'esprit. Albert Einstein, Isaac Newton ou encore Pythagore. Les exemples d'hommes scientifiques importants ne manquent pas. Mais quand il s'agit de citer des femmes scientifiques, les noms viennent souvent moins facilement à l'esprit. La plus connue est sans doute Marie Curie. Elle a révolutionné la science avec ses recherches sur la radioactivité. Elle est devenue la première femme à recevoir un prix Nobel et même la seule à en avoir reçu deux dans deux disciplines différentes. Pour beaucoup de gens, elle est la seule femme scientifique connue. Mais en réalité, il y en a beaucoup d'autres. Alors, les femmes scientifiques n'ont-elles jamais existé ? Bien sûr que si, car l'intelligence n'a ni genre, ni frontières, ni couleur de peau. Par exemple, Katherine Johnson, une mathématicienne qui travaille pour la NASA, elle a joué un rôle essentiel dans plusieurs missions spatiales, notamment Apollo 11, la mission qui a permis aux premiers astronautes de marcher sur la Lune. Malgré les discriminations raciales et sociales de son époque, elle a réussi à s'imposer grâce à son talent. Aujourd'hui, il est important de rappeler que les sciences appartiennent à tout le monde et que les filles comme les garçons peuvent devenir scientifiques et faire avancer la connaissance. Je laisse maintenant la parole à Zia, Alban et Louise qui vont également vous parler de personnalités féminines oubliées dans l'histoire.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de certaines femmes oubliées par l'histoire. Pour commencer, nous allons vous présenter une physicienne suédoise d'origine autrichienne. Lise Meitner est renommée pour ses travaux sur la radioactivité et la physique atomique. Elle joua un rôle majeur dans la découverte de la fission nucléaire, qui valut le prix Nobel de chimie à son collègue et ami Otto Hahn en 1944. Elle fournit avec son neveu Otto Frisch la première explication théorique de sa découverte. Einstein parle d'elle comme la femme scientifique la plus importante du XXe siècle.
Ensuite, une femme au destin tragique. La douce et discrète Nouri Nayat Khan n'était pas vraiment prédestinée à l'espionnage. Destinée à être princesse, elle finit espionne pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a occupé l'un des plus dangereux postes d'agent de renseignement. Elle est morte, tuée par des SS, Schutzstaffel, dans un camp à 30 ans. Maintenant, une autre femme en rapport à la Seconde Guerre mondiale. Étudiante dans l'Allemagne nazie, Sophie Scholl s'est dressée avec un immense courage contre la dictature d'Hitler. Elle a créé le mouvement clandestin de la Rose Blanche, avec l'aide de son frère et de quelques amis. Ce mouvement était un groupe de résistance étudiants allemands fondée en 1942 à Munich, qui diffusait des tracts contre le régime nazi. Elle meurt exécutée à 21 ans. Et dans la famille des femmes oubliées, je demande Nettie Stevens.
Nettie Stevens était une généticienne américaine qui a découvert les chromosomes sexuels X et Y en 1905, jetant les bases de la compréhension moderne de l'hérédité et de la détermination du sexe. En 1933, le généticien américain Thomas Hunt Morgan obtient le prix Nobel de médecine pour sa théorie chromosomique de l'hérédité couronnée. Théorie importante, certes, mais que Morgan n'aurait jamais pu formuler sans les travaux et les imminentes découvertes de son étudiante, l'étonnante et inspirante Nettie Stevens. Cette femme a été victime de l'effet Matilda, comme plein d'autres. Cet effet désigne la minimisation ou l'attribution à des hommes des contributions scientifiques des femmes.
Effacées, oubliées, aujourd'hui encore, les femmes continuent de se battre pour être respectées et entendues. Un événement très médiatisé et d'ailleurs permis de libérer la parole de nombreuses femmes à travers le monde. L'affaire Weinstein. Cette affaire a eu un véritable impact et c'est Nina, Alexis, Sarah et Joris qui vont nous expliquer.
Merci Yanis. Effectivement, nous allons vous parler d'une affaire qui a fait beaucoup de bruit dans le monde entier. L'affaire Weinstein. Harvey Weinstein était un célèbre producteur de cinéma américain. Il travaillait avec de nombreux acteurs et actrices, ainsi que des réalisateurs et des réalisatrices très connus à Hollywood. Mais en octobre 2007, le grand journal américain The New York Times et The New Yorker publient des enquêtes très importantes.
Dans ces articles, plusieurs femmes accusent Harvey Weinstein de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle et même de viol. Au début, une douzaine de femmes témoignent. Puis, peu à peu, beaucoup de femmes racontent des faits similaires. Harvey Weinstein, lui, nie toutes les accusations.
Après ces révélations, les conséquences sont rapides. Harvey Weinstein est renvoyé de sa propre société de production et exclu de plusieurs organisations importantes du cinéma, comme Academy of Motion Picture Arts and Science. La justice ouvre ensuite plusieurs enquêtes. En 2020, Harvey Weinstein est finalement condamné à 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle sur deux femmes.
Cette affaire ne concerne pas seulement le cinéma. Elle a eu un impact beaucoup plus large dans la société. On parle même de l'effet Weinstein, car après ces révélations, de nombreuses femmes dans le monde ont commencé à parler des violences qu'elles avaient subies. Sur les réseaux sociaux, un mouvement important apparaît, MeToo Movement. Ce mouvement encourage les victimes à témoigner et à ne plus garder le silence.
L'affaire Weinstein a permis plusieurs avancées importantes. Elle a libéré la parole des femmes qui se sentent davantage écoutées.
Elle a permis de mettre en lumière les violences sexuelles, souvent restées cachées pendant longtemps.
Elle a lancé un grand débat dans la société sur le respect, le consentement et l'égalité entre les femmes et les hommes.
Elle a aussi encouragé certaines entreprises et institutions à mieux lutter contre le harcèlement.
L'affaire Weinstein a montré que même des personnes très puissantes peuvent être accusées et jugées. Elle a surtout permis de briser le silence autour des violences faites aux femmes et d'ouvrir une réflexion importante dans la société.
Il est important de dire que les inégalités entre les femmes et les hommes ne passent pas seulement par les lois ou les grandes affaires médiatiques. Elles peuvent aussi exister dans notre quotidien à travers les idées reçues sur ce que les filles et les garçons sont censés aimer ou faire. Ce sont ce qu'on appelle les stéréotypes de genre et Lorraine, Lucie, Lana et Alice vont nous en parler.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons effectivement parler d'un sujet qui concerne tout le monde, les stéréotypes. Pour commencer, posons-nous une question simple. Qu'est-ce qu'un stéréotype ? Un stéréotype est une idée simplifiée ou exagérée que l'on attribue à un groupe de personnes. Par exemple, certaines personnes ne pensent que tous les Français portent un béret et mangent des baguettes. Bien sûr, ce n'est pas vrai pour tout le monde. Les stéréotypes peuvent concerner les pays, les métiers, mais aussi les filles ou les garçons.
Pourquoi les stéréotypes sont-ils souvent faux ? Les stéréotypes existent souvent parce que certaines images ou idées sont répétées pendant longtemps. À force de les voir ou de les entendre, beaucoup de personnes finissent par les croire. On peut même en voir dans la vie de tous les jours. Par exemple, dans certains lieux publics, les pictogrammes des toilettes montrent un homme avec un pantalon et une femme avec une robe. Cela donne l'impression que toutes les femmes portent des robes et tous les hommes des pantalons, ce qui n'est pas forcément le cas.
Quelles sont les conséquences des stéréotypes ? Les stéréotypes peuvent avoir des conséquences dans la vie quotidienne. Par exemple, certaines filles peuvent hésiter à jouer au football parce qu'on entend parfois que c'est un sport pour les garçons. Et certains garçons peuvent hésiter à faire de la danse parce qu'ils ont peur d'être jugés. Ces idées peuvent aussi influencer le choix des études. Par exemple, on remarque souvent que les filles s'orientent davantage vers les études littéraires, tandis que les garçons sont plus nombreux dans certains domaines scientifiques ou techniques.
Alors, comment peut-on changer les choses ? La première étape est de prendre conscience que les stéréotypes existent. Ensuite, on peut écouter des témoignages de personnes qui ont choisi des chemins différents. Il est aussi important de montrer des exemples inspirants, des femmes scientifiques, des hommes danseurs ou encore des filles qui jouent au football. Ces exemples peuvent aider à changer les mentalités et montrer que chacun peut faire ce qu'il aime.
Pour finir, les stéréotypes sont des idées simplifiées qui ne relèvent pas la réalité.
Ils peuvent limiter les choix et influencer notre manière de penser.
C'est pourquoi il est important de les questionner et de ne pas juger les personnes à partir d'idées toutes faites.
Alors nous comptons sur vous pour réfléchir à ces stéréotypes et aider à les faire disparaître.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une émission un peu spéciale. À l'heure où nous enregistrons cette interview, les élèves de 4e du collège participent au Forum de l'orientation, deuxième édition organisée cette année par les élèves de 4e 4, toujours sur le thème de l'égalité hommes-femmes dans le monde du travail.
Nous sommes ravis d'accueillir pour cette première interview Gabriel Mahé.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Pouvez-vous nous vous présenter pour nos auditeurs ?
Alors, je m'appelle Gabriel Mahé, j'ai 19 ans et donc je fais mes études au lycée Jacques Coeur à Bourges. Je ne viens pas du tout de Bourges, je viens de la Mayenne. Et avec Parcoursup, je suis venu à Bourges. Et donc, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je suis en deuxième année du coup.
Ah.
Et voilà, je passe mes examens cette année.
Okay. D'accord. En quoi consiste votre métier ?
Alors en fait, en métier, forcément, on n'est pas spécialisé. Le BTS métier de la mode et vêtements, c'est très large. La spécialisation, elle va surtout venir après, que ce soit dans les licences, tout ça. Mais dans notre BTS, on va surtout travailler la confection de vêtements, le travail à plat des vêtements sur papier, donc ce qu'on appelle du patronage, tout ça. Donc c'est vraiment ce qui va nous aider à faire le vêtement, à couper le tissu, tout ça.
D'accord.
On va aussi travailler sur des PC en CAO et DAO, donc la conception assistée par ordinateur, tout ça. Voilà, donc c'est principalement les choses qu'on fait. On va aussi faire du moulage, donc je ne sais pas si vous voyez, c'est le travail sur les mannequins, tout ça. Voilà.
Et qu'est-ce qui vous a motivé pour faire ce métier ?
Alors en fait, moi j'ai un objectif, c'est de, à terme, créer ma marque. Donc ça, c'est vraiment sur le très long terme. Et donc j'ai choisi de, parce que je ne viens pas du tout d'un bac pro métier de la mode et vêtements, je viens d'un bac général. Et donc j'ai décidé de travailler ma technique, car je ne savais pas forcément coudre avant, pour ensuite arriver vers des grandes écoles de mode, tout ça.
Bah, très belle ambition de vouloir créer sa marque.
Merci.
Oui. Est-ce que vous avez dû faire face à des difficultés dans votre métier en tant qu'homme ?
Non, pas spécialement, non. On est de plus en plus ouvert, donc non, pas spécialement.
D'accord. Et comment est-ce que vous décrirez votre expérience en travaillant dans un environnement qui, je pense, est majoritairement composé de femmes ?
Oui, c'est vrai, dans notre classe. Alors l'année dernière, on était beaucoup plus, il y en a qui sont partis. Mais dans notre classe actuelle, on n'est que 2 garçons pour 18 filles, je crois. Et donc, c'est vrai qu'on est minoritaire. Mais ça ne change pas du tout la manière de travailler. Enfin, moi, personnellement, ça ne m'impacte pas forcément. Voilà, parce que je viens déjà avant d'un milieu assez féminin, donc ça ne m'a jamais vraiment gêné en fait.
D'accord. Et est-ce que vous avez des modèles masculins dans votre secteur qui vous inspirent ?
Dans le secteur, pas forcément, parce que c'est quelque chose. Le BTS est orienté vers l'industrie. Après, comme je disais tout à l'heure, on peut s'orienter vers des choses plus artistiques, tout ça. Mais forcément, on va avoir tous les grands créateurs, tout ça. Qui sont majoritairement des hommes, mais voilà.
Et est-ce que vous êtes fier de ce que vous faites, des études que vous faites ?
Ouais, assez. Après, mes études ne sont pas du tout finies. J'en suis encore qu'au début de mes études. Par exemple, le BTS, c'est 2 ans, et moi, j'en ai encore pour, moi, si je compte, 6 ans d'études derrière. Donc, ouais. Mais je suis assez fier, c'est un début et on verra ce qui se passe ensuite.
Bah, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Pas de souci.
Merci beaucoup pour votre temps. C'était très intéressant tout ce que vous avez dit.
Merci.
Bon courage pour vos examens.
Oui, merci beaucoup. Courage.
C'est gentil.
Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une émission un peu spéciale. À l'heure où nous enregistrons cette interview, les élèves de 4e du collège participent au Forum de l'orientation, 2e édition, organisé cette année par les élèves de 4e 4, toujours sur le thème de l'égalité homme-femme dans le monde du travail.
Nous sommes ravis d'accueillir pour cette deuxième interview Pauline Lacaze.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs?
Yes, donc je m'appelle Pauline Lacaze, j'ai 35 ans, j'habite à Meun-sur-Yèvre. Donc j'ai passé un bac économique et social. Ensuite, je me suis direct engagée à l'armée. C'est toujours ce que je voulais faire. Donc j'ai fait 10 ans d'armée dans l'armée de terre. J'ai quitté en 2020. Après, j'ai fait une reconversion qui m'a permis de devenir coach sportive et préparateur physique. Voilà, j'ai passé différents diplômes, le BPJEPS, le diplôme universitaire de préparateur physique. Et puis, à l'heure actuelle, j'ai ma société. Je fais du coaching à domicile, des cours co. Et je suis réserviste, en parallèle.
Et en quoi consiste votre métier?
Alors, mon métier de base maintenant, donc, je fais des cours collectifs. Renforcement musculaire, cardio training, yoga, pilates. Je fais du coaching individuel. Donc là, je vais chez les gens où les gens viennent chez moi. J'ai ma salle, en fait, à la maison. Et puis, et j'accompagne aussi les gens sur le côté en nutrition, nutritionnel.
Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce métier?
Alors, je pense clairement mes 10 ans d'armée. Parce que c'était physique et en fait en faisant la validation des acquis je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça et c'est ça qui m'a poussée à devenir coach, puis le contact humain en fait j'aime ça aussi donc je pense que c'est mon expérience à l'armée qui m'a poussée à faire ça.
Et est-ce que vous avez dû faire face à des difficultés dans ce métier en tant que femme?
Alors le métier actuel en tant que coach, non.
D'accord.
En revanche, à l'armée, j'avais eu quelques petites complications. Ouais.
Vous avez fait des remarques, qu'est-ce qui s'est passé?
Je ne rentrerai pas dans le détail, mais oui, il y a eu de la discrimination un petit peu en tant que femme, ouais, clairement.
Ah.
Mais en tant que coach, aucun problème.
Comment décririez-vous votre expérience en travaillant dans un environnement majoritairement masculin?
Franchement, ça se passe bien quand chacun reste à sa place et accepte de travailler avec les uns et les autres. Enfin, vraiment, je travaille avec beaucoup d'hommes et j'ai aucun problème. Donc, c'est personnel en fait. Autant avec des hommes, ça va être super bien. Autant parfois, il y en a, ça peut très mal se passer. C'est vraiment, vraiment individuel, en fait.
Et est-ce que vous auriez des modèles féminins dans votre secteur qui vous inspirent?
En tant que coach, des modèles féminins qui m'inspirent? pour être honnête, non.
D'accord.
Non. Après, sur le côté militaire, oui, il y en a, ouais. Ouais, il y en a.
Vous pouvez me dire des noms ou
Non.
Non, ok.
Mais il y en a, en tout cas, de par leurs conditions physiques, ce qu'elles emmènent et la preuve que même si on est une femme, on peut aller aussi loin qu'un homme et c'est ok avec ça, quoi. Donc, voilà.
Est-ce que vous êtes fière de votre travail?
Ouais, complètement. Très fière.
Selon vous, quelles sont les compétences que les jeunes femmes devraient développer pour réussir dans des environnements professionnels dominés par les hommes, comme par exemple le militaire, comme vous avez dit?
Alors, est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît?
Bien sûr. Alors, quelles compétences les jeunes femmes devraient-elles développer pour réussir dans des environnements professionnels dominés par les hommes?
En fait, J'ai envie de dire, ça dépend des branches. Si on se fie au métier du sport comme moi ou l'armée, effectivement, je dirais compétences physiques. Ça, c'est clair. Être quand même à la hauteur. Développer la confiance en soi. Aussi, être sûr et s'affirmer, quoi. Ne pas se rabaisser être fier de ce que l'on est. Et c'est pas parce qu'on est une femme qu'on fait moins bien qu'un homme, bien au contraire. Enfin, clairement, moi, dans ma carrière, dans tout ce que j'ai pu faire, parfois, j'étais au-dessus de certains hommes et il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, c'est vraiment un équilibre. Ouais, en fait, je pense qu'on a voulu rentrer dans un truc homme, femme, mais en vrai, on peut tous arriver à faire des choses ensemble. Et il y a des femmes qui seront meilleures sur certains domaines que les hommes et vice-versa. Et en fait, on s'équilibre aussi. Hein. Moi, j'ai fait des missions, je partais avec les gars. Bah, les femmes apportent un petit plus, un petit côté que les gars aiment bien et l'inverse aussi. Hein. Faut s'accepter, hein, je pense, c'est tout. Hein. Intelligence de situation.
Quel conseil donneriez-vous à une jeune femme qui souhaite entamer une carrière dans un secteur où la majorité des professionnels sont des hommes ?
Ne pas se rabaisser, être sûre de soi. On revient sur ce que j'ai dit un petit peu avant, hein, mais avoir confiance en soi et surtout ne pas se dévaloriser, ouais, se sous-estimer. On est aussi capable qu'un homme, quoi. Ouais, faut être fière et s'assumer pleinement en tant que femme.
Et pour finir, quel conseil donneriez-vous à d'autres femmes qui souhaitent faire un métier similaire au vôtre, par exemple coach ou militaire, par exemple?
Quel conseil, c'est ça?
Oui, quel conseil?
Alors, pour les femmes qui veulent faire coach sportive ou s'engager à l'armée, c'est déjà avoir une bonne condition physique, ça va de soi. Hein, être en bonne santé, volontaire, motivé, un bon état d'esprit. Et je pense dans les deux métiers, vraiment se vouloir toujours un peu se dépasser, en fait. Se former, ne pas rester là. Le but, voilà, c'est aussi le développement personnel. Hein, toujours vouloir être, comme on dit maintenant, une meilleure version de soi-même. Voilà, c'est un peu ça. Puis travailler, tout simplement. Travailler et puis... je pense que j'ai tout dit. J'ai bien répondu, je pense.
Oui, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, de toute façon.
Ouais, mais si j'ai oublié quelque chose... mais je ne pense pas, non.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Ouais. Merci à vous, les filles.
Bonne journée.
Ouais,
bonne
merci, journée. Une bonne journée à vous aussi.
Merci.
Notre émission spéciale sur l'égalité entre les filles et les garçons touche maintenant à sa fin.
À travers tous ces sujets, nous avons vu que l'égalité entre les femmes et les hommes est un combat ancien, mais toujours d'actualité. Même si des progrès ont été faits, il reste encore des inégalités et des stéréotypes à combattre.
Nous espérons que cette émission vous a plu, qu'elle vous a appris des choses et qu'elle vous a permis de réfléchir à l'importance de l'égalité dans notre société.
Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette émission et merci à vous de nous avoir écoutés.
À bientôt sur notre web radio.